Bonjour David Cormon.
Bonjour.
François de Rugy, le ministre de la Transition environnementale, a été reçu hier pendant près de 2 heures par le Premier ministre après les révélations sur les dîners peut-être un peu trop fastueux organisés à l'hôtel de Lassay lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale et les travaux qu'il a fait réaliser dans son logement de fonction au ministère de la Transition environnementale. D'un mot d'abord, vous connaissez bien François de Rugy puisqu'il était auparavant chez Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous avez été surpris par les informations de Mediapart, est-ce que ce qui lui est reproché lui ressemble ?
Non. En tout cas, ça ne ressemble pas au François de Rugy qu'on fréquentait quand il était, il y a plus de 5 ans maintenant, chez Les Verts. C'est quelqu'un qui a un caractère plutôt réservé, sobre, voire austère, qui ne boit pas spécialement du vin, enfin bon, bref. Donc oui, j'étais plutôt surpris, pour être tout à fait franc.
Vous n'êtes pas le seul à le dire, hein, que ça, c'est pas du tout un personnage bling-bling.
Non, pas du tout, c'est pas le genre de la maison, c'est, Loire-Atlantique,
qui avait joué la transparence très tôt, bien avant les obligations.
Ça, c'est une marque de fabrique des écologistes. Vous savez qu'on est très attaché à un rapport aux fonctions publiques, aux fonctions politiques, qui doivent se faire dans la transparence et effectivement dans une forme de sobriété, de faire attention à l'ostentation. C'est la conception qu'on a du rapport à l'exercice du pouvoir. Et dans ce cadre-là, y compris d'ailleurs juste après qu'il soit élu président de l'Assemblée nationale, il avait mis en œuvre un certain nombre de réformes pour veiller à ce que le fonctionnement de cette institution soit plus conforme.
Comme un boomerang aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, à l'issue de cet entretien, auquel il a été d'ailleurs convoqué un peu dans l'urgence, hein, puisqu'il a dû écourter un déplacement, un communiqué a été publié. François de Rugy et Édouard Philippe sont convenus de la nécessité de répondre à toutes les questions que se posent légitimement les Français. Si la moindre ambiguïté persistait à l'issue du travail de vérification, François de Rugy s'engage à rembourser chaque euro contesté. Est-ce que cette réponse vous satisfait ?
Elle est étrange, cette réponse, parce que soit il n'y a pas eu faute, il n'y a pas eu faute, soit il y a eu faute, et
rembourser. Il ne faut pas rembourser dans ce cas-là.
Rembourser, c'est la moindre des choses, mais enfin, quand vous faites avoir, je ne sais pas quoi, pas payer votre amende d'excès de vitesse dans les temps, il s'agit pas seulement de rembourser, en fait, vous avez une amende en plus. Ouais. C'est bon, voilà. Mais ça. Vous savez, moi, dans cette affaire, enfin, je pense qu'il faut faire attention maintenant à pas se centrer sur le cas de Rugy, le cas personnel, parce qu'en plus, il y a un autre phénomène avec lequel moi, je suis pas toujours à l'aise, c'est que quand il y a la horde qui commence à se déchaîner, et je crois qu'on perd de vue ce qui est essentiel. Il faut pas que l'arbre de Rugy cache la forêt La République en marche, parce que moi, ce qui retient mon attention, c'est que ces événements, quelque part, font système. Avec un pouvoir qui avait fait une promesse aux Françaises et aux Français. C'était le Nouveau Monde. C'était de dire, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait écrit un livre pour sa campagne présidentielle qui s'appelait « Révolution ». Ça avait un sens, Révolution. C'était de dire, quelque part, lui, son argumentaire, c'était de dire, on est dans un vieux monde un peu poussiéreux, avec un rapport au pouvoir un peu trop monarchique, il faut moderniser tout ça. Il faut un rapport plus direct, plus franc, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 2 ans ? Un nouveau monde qui ressemble furieusement à l'ancien, parfois même en pire. L'affaire Benalla, par exemple. Et donc, on a le sentiment d'une impression de toute puissance de ce pouvoir. Et ce qui choque, évidemment, avec...
Ce qu'avait évoqué Gérard Collomb, assez peu de temps avant de quitter le gouvernement.
Oui, qui est un représentant significatif de l'ancien monde, Gérard Collomb, et depuis longtemps. Et donc là, il y a quelque chose. Et l'autre chose, je pense, qui est choquante, c'est l'aspect, la force symbolique, le choc des photos, si j'ose dire, avec une situation sociale qui est extrêmement dure, difficile, et une attitude du pouvoir en place par rapport à ces mouvements sociaux qui est extrêmement brutale. Et donc là, vous avez deux choses qui font, qui quelque part choquent, enfin, en tout cas moi me choquent et je pense choquent beaucoup dans l'opinion publique. Et donc un pouvoir qui est un petit peu à côté de la plaque, par rapport aux réponses qu'il faudrait apporter, semble parfois un peu à côté de la plaque.
François de Rugy est le ministre de la Transition écologique. Est-ce que cette affaire fragilise la cause de l'écologie ?
Il y a deux grands perdants dans cette affaire. Il y a l'image de la démocratie, on en a parlé, bien sûr, et puis il y a l'écologie. Déjà, ce gouvernement est quand même pas hyper motivé pour faire de l'écologie. l'écologie. C'est le départ de Nicolas Hulot, c'est etc., etc., etc. Et donc, on avait François de Rugy, qui n'était pas un ministre de l'écologie, avec un poids politique considérable. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Il était déjà assez isolé politiquement au sein de La République En Marche, avec peu de soutien par ailleurs. D'où d'ailleurs des choix politiques, des arbitrages politiques qui étaient assez peu en faveur de l'écologie. Là, il est encore plus affaibli. Et donc, pour les mois qui viennent, s'il restait en fonction, on voit mal comment il pourrait plaider auprès des autres membres du gouvernement, auprès des parlementaires à l'Assemblée, auprès du Premier ministre et du chef de l'État, un rapport de force qui lui permette de gagner des arbitrages. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'écologie.
C'est-à-dire son départ du ministère serait une bonne chose pour la démocratie et pour l'écologie. Julien Bayou, hier, le porte-parole de parti, disait que ça serait pas une grosse perte s'il partait.
Non, mais Julien avait a raison dans son argumentaire. Moi, après, j'ai une règle de conduite, c'est quand je soutiens pas un gouvernement au départ, ça a pas de sens tous les 15 jours de demander leur démission. J'étais déjà pas pour qu'ils soient là au départ, tout ce temps qu'ils sont. Donc je n'ai pas demandé leur démission.
Si vous tous démissionner en bloc, ça vous arrangerait.
C'est ça, mais comme la démocratie fait que c'est eux qui sont majoritaires, faut respecter ce truc-là. Donc moi, je suis pas dans le réflexe un peu de demander les démissions. Je fais juste l'analyse que l'écologie ne sort pas renforcée de cet épisode. C'est moins qu'on puisse dire.
Vous êtes l'un des nouveaux députés européens élus en mai dernier. La candidate choisie par les dirigeants européens pour la présidence de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, a passé son grand oral devant votre groupe mercredi dernier. Elle a promis aux parlementaires de promouvoir l'état de droit, le virage numérique, la compétitivité et la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'elle vous a convaincu ?
Non.
Pas du tout ?
Non. Elle ne nous a pas convaincus parce que le problème qu'on a, d'abord, vous l'avez dit, cette proposition de présidente de la Commission au Parlement européen, c'est un peu l'équivalent d'un gouvernement dans une démocratie parlementaire. Sauf que là, la différence, c'est qu'il y a un autre acteur qui rentre en jeu entre le Parlement et la Commission. C'est le Conseil. Le Conseil, c'est les chefs d'État et de gouvernement européens qui sont venus nous dire aux parlementaires, voilà le package qu'on vous propose, qu'on appelle les top jobs, les plus gros jobs au niveau de la Commission, de la Banque centrale, etc. etc. Et donc là, il y a la proposition de Mme von der Leyen qui sort un peu du chapeau en réalité. Parce que vous savez qu'aux européennes, quand on a voté, il y avait l'affaire de ce qu'on appelle les spin-zone candidates. Oui. C'est-à-dire que chaque parti disait, si on gagne, voilà notre candidate ou voilà nos candidats
pour... On défendra pour tel poste.
Et c'était pas pour le parti de droite du PPE, c'était pas Mme von der Leyen. C'était un Allemand qui s'appelle Monsieur Weber. Sauf qu'il n'y avait pas de consensus au sein du Conseil et au sein des partis, d'ailleurs, des trois partis, les libéraux, les socialistes et la droite, pour que ça soit Monsieur Weber. Et donc Madame von der Leyen est un peu sortie du chapeau, assez peu préparée d'ailleurs, c'est pas rien être présidente de la Commission européenne, et avec des propositions d'ordre général, c'est ce que vous avez rappelé. Dire oui pour l'état de droit, sauf que au sein du PPE, elle est alliée avec les amis de Monsieur Orban, dont on ne peut pas dire que ce soit des grands serviteurs des droits humains dans leur politique qu'ils mènent dans leur pays. Et sur le changement climatique, c'est des propositions d'ordre général. Nous, les Verts, qu'est-ce qu'on a fait depuis le 26 mai ? C'est qu'on a dit aux autres groupes, principaux groupes, droite, centriste et socialiste, parlons de la feuille de route. Faisons une feuille de route pour l'Europe. On n'est pas d'accord avec vous sur beaucoup de choses, mais au moins essayons de bouger les lignes, par exemple sur la lutte contre le changement climatique. Et là, Mme von der Leyen dit, moi je suis pour la neutralité carbone en 2050, très bien, bravo, mais pour arriver à la neutralité carbone en Europe en 2050, il faut répondre à des questions très simples et très concrètes. Qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois ?
Et là,
qu'est-ce qu'on fait dans un an ? Et là, ça devient confus. Je vais vous donner un exemple, c'est la politique agricole commune, qui est une grosse politique européenne, qui a plein d'impact, notamment sur le changement climatique. Et c'est Yannick Jadot qui lui a posé la question, lui dit, mais Madame von der Leyen, la commission sortante, celle qui arrive en fin de vie, là, a fait une proposition de la PAC qui ne change pas les orientations de la PAC. Est-ce que vous vous engagez, si vous êtes présidente de la commission, à changer d'orientation de la PAC ? Elle a dit, je peux pas prendre cet engagement. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des déclarations d'intention, mais dès qu'on veut rentrer dans le concret, il n'y a plus personne.
Quelles sont tes chances d'être élu en quelques secondes ? C'est mardi prochain.
Écoutez, moi, je suis un novice, donc je ne sais pas encore comment ça se passe, mais c'est
compliqué. Votre pronostic n'est pas forcément très fiable.
Non, et après, je peux avoir une intuition, c'est que ça va être compliqué, parce qu'il y a le PPE, logiquement, son parti qui va la soutenir, mais au niveau des sociodémocrates, c'est plus simple, et au niveau des centristes, c'est pas simple non plus. Donc on verra, suspense, rendez-vous mardi.
Merci David Cormand,
merci
bonne journée.
Vous.